grand de la terre. Et nous pauvres canuts, Sandra, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Votre règne finira, mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous sommes tous
dégagé les nues, c'est Jean-Marie de Kervadec, revenant de la morue, qui s'écrit sans salam aleik. Hardi petit monte à la misaine, hardi petit et vire au guindeau, c'est Jean-Marie de Kervadec, revenant de la morue, qui s'écrit sans salam aleik. Je m'en vais au super-U.
Je m'en vais au super-U.
Soisic reconnaît plus son mec, elle en a la berlue, c'est la chérie qui vit avec, elle en tombe des nues, joyeuse elle répond aussi sec. Hardi petit monte à la misaine, hardi petit et vire au guindeau, c'est la chérie qui vit avec, elle en tombe des nues, joyeuse elle répond aussi sec, va donc au super U.
Va donc au super U.
Achète du beurre, des gâteaux secs et puis des figolus. Pour la vaisselle, il faut du pec, citron, du jambon cru, du lait ribot, du flan, du cake.
Hardi petit monte à la misaine, hardi petit et vire au guindeau.
Pour la vaisselle, il faut du pec, citron, du jambon cru, du lait ribot, du flan, du cake et puis du papier cul.
Et puis du papier cul.
Tant qu'à manger, il y a l'évêque et son neveu Lulu. Il préfère les filets de rhum steak aux filets de merlu. Le soir, on regardera Star Trek.
Hardi petit monte à la misaine, hardi petit et vire au guindeau.
Il préfère les filets de rhum steak aux filets de merlu. Le soir, on regardera Star Trek sur le divan tout nu.
Sur le divan.
Mais Jean-Marie de Kervadec, malheur, où donc es-tu? Il est au bar buvant cul sec, juste au coin de...
Mmh. êtes sur Radio Libertaire, la radio sans lieu, sans maître et sans publicité, dans l'émission de l'Association des cinéastes documentaristes ad hoc. On a déjà traité le sujet. Aujourd'hui, nous recevons dans ce studio deux réalisateurs dont les films nous emmènent à la rencontre de Rome. Dans le camp des Roms, c'est le titre de cette émission. Nicolas Hans-Martin, pour son film Roméo et Christina. Bonjour Nicolas.
Bonjour Anne.
Et José Vieira, pour Souvenir d'un futur radieux. Bonjour José.
Bonjour. Vieira, ça ira.
Vieira, ça ira. Je fais l'effort de mettre le i. Ok, je suis bien contente parce que j'ai du mal. Donc José Vieira. Bonjour José. Donc ce sujet, les Roms, des hommes, des femmes et des enfants que nous croisons sur les trottoirs de nos villes et sur lesquels nous portons la plupart du temps un regard d'incompréhension, chargé de préjugés, voire de méfiance. Ces étrangers absolus de notre époque, comme dit José Vieira, qui sont pourtant des migrants comme les autres, nous dit Nicolas Hans-Martin. Nous allons en parler ensemble pendant une heure et demie à cette table Caroline Kim-Morange. Bonjour Caroline.
Bonjour Anne.
Et moi-même, Anne Galland. Et à la technique, Mélanie Trachler, Bernadette Mermier. Nous sommes toutes réalisatrices et membres d'ad hoc, et il y a aussi avec nous Lounès Cazenave, jeune étudiant qui a rejoint notre équipe depuis le mois dernier. Alors, comme on fait d'habitude, c'est quand même la quatrième année qu'on poursuit cette émission tous les premiers dimanches du mois. On commence par présenter un des deux films et son réalisateur ou sa réalisatrice. Souvent, il y a beaucoup de femmes. Et puis ensuite, on va d'abord parler de Nicolas, je vais en parler. Ensuite, Caroline va te présenter José et ton film. Et puis, l'idée, c'est vraiment une discussion presque à bâton rompu entre nous. Et tout le monde a vu les films, donc tout le monde peut en parler. Et c'est ça qui est riche dans cette émission. Donc, Nicolas Hans-Martin, tu es né à Dijon en 1969. Après des études aux Beaux-Arts à Prague, Aix-en-Provence et Marseille, tu as travaillé dans le théâtre comme acteur, assistant à la mise en scène, scénographe. Tu t'es formé au cinéma sur des courts-métrages de fiction, chef opérateur ou assistant à la mise en scène. Tu as poursuivi dans le cinéma documentaire aux ateliers Varan et à l'atelier documentaire de la Fémis. Parallèlement, tu as beaucoup voyagé, tu as appris à parler le roumain, puis le romanès, la langue des Tziganes.
Oui.
En 2007, tu as cofondé le festival Lacho d'Ivano, le bel échange en langue romanie, une manifestation engagée pour la reconnaissance et la diffusion des cultures tziganes à Marseille. Et je crois que vous vous y êtes rencontrés d'ailleurs,
absolument,
Nicolas et José.
Ouais.
À ce moment-là, donc en 2007, tu tournes ton premier film documentaire, Mama Liga, portrait d'un couple franco-roumain qui vit à Marseille, où tu vis aussi à l'époque, et que tu accompagnes dans leur périple pour retrouver les parents de Gita, qui est tzigane roumain. Entre la France et la Roumanie, à pied, à cheval, en voiture, en bateau et en musique, ton film esquisse le portrait d'un couple fragile et improbable. En 2012, tu retournes en Roumanie, où tu réalises ton deuxième long-métrage documentaire, Un coin de paradis, avec cette fois-ci un couple de paysans qui survivent dans une vieille bicoque perdue à l'extrême est de la Roumanie et qui rêvent d'une vie meilleure. Un coin de paradis a beaucoup circulé en festival et là aussi vous avez pu vous croiser avec José Vieira, par exemple à Douarnenez, où il était, José, pour son film Le bateau en carton. Et donc toi, Un coin de paradis. Mais aujourd'hui, le film dont nous allons parler, c'est ton troisième long-métrage documentaire, Roméo et Christina, en 2016. Un film qui a été sélectionné à l'époque au cinéma du réel.
Oui.
Une petite phrase, juste pour résumer ce film. J'ai beaucoup repris ce que toi t'avais écrit, parce que dans ces cas-là,
bien sûr,
tu l'as tellement travaillé que je ne vais pas moi inventer autre chose. J'ai condensé un tout petit peu. Donc, Roméo et Christina, un couple de jeunes tziganes qui se sont rencontrés à Marseille et qui s'aiment depuis 2 ans, malgré leur très grande précarité. Tu les accompagnes entre leur installation de fortune sous le pont de la gare Saint-Charles à Marseille et les retours contraints dans leur famille en Roumanie, où ils rêvent de se construire une maison. Mais partout, c'est la galère, pas d'argent, pas de travail et souvent le rejet. Ils inventent au jour le jour les moyens de leur survie. Et quand leur désir d'enfant devient enfin réalité, l'espoir de mettre un terme à leur instabilité se fait plus impérieux que jamais. Pour avoir une idée de ce film, nous allons en écouter un premier extrait sonore. Alors on a un petit problème, c'est pas un problème, c'est, on y est confronté souvent dans cette émission, c'est que ton film... on l'entend en langue roumanie.
On l'entend en langue, en roumain et en romanès.
En roumain et romanès, voilà. De toute façon, nous, on ne comprend ni le roumain ni le romanès, donc on a effectivement du mal à se faire une idée sans les sous-titres, même si c'est toujours vraiment passionnant d'écouter des dialogues, d'écouter des gens qui parlent. On écoute déjà la musicalité de la langue et puis on entend très très bien les intentions. On verra dans nos extraits que il y a des atmosphères tout à fait différentes selon les moments qu'on a choisis. Là, je vais quand même vous donner quelques clés, auditrices et auditeurs, parce que sinon, vous allez être vraiment trop frustrés. Donc, c'est au début du film, mais on a déjà rencontré Roméo et Christina, qu'on découvre, dans un premier temps, on découvre ce jeune couple qui fait les poubelles dans les rues de Marseille. Puis ensuite, on les voit parmi le groupe de tziganes qui se sont installés sous l'escalier de la gare Saint-Charles à Marseille. Donc on a une petite idée déjà de ces deux personnes qui vont être celles qu'on va suivre, mais qui sont dans un groupe, qui sont dans une communauté, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire. Dans l'extrait qu'on va écouter, il t'emmène dans un parc, un grand parc qui est vide. Et c'est là qu'ils campaient et se sont connus. Mmh. Ils se sont fait virer. Mmh. Ils te racontent. Et toi, tu parles en romanès avec eux.
Là, je parle en roumain avec eux.
Tu parles en roumain. Voilà. Donc, c'est bien quelque chose qu'on va te demander de préciser parce que on a notre première...
C'est une langue latine, le roumain. Ouais. Donc, on comprend des choses, des fois. Avec l'italien, le portugais, le français, on s'en sort pas trop mal.
Voilà, c'est ça. On a un peu d'espagnol dans un coin.
Espagnol aussi.
D'accord. Alors que le romanès, c'est vraiment tout à fait autre chose.
Le romanès, c'est une langue indo-persane, mais c'est pas complètement autre chose, parce que c'est du sanskrit. Donc, toutes les langues européennes viennent... Les tziganes parlent sanskrit, enfin, en partie sanskrit.
D'accord. Donc, On va lancer l'extrait, mais j'ai effectivement retranscrit tous les dialogues. Je vais vous en faire un très court résumé quand même, que vous entendiez de quoi il s'agit. Donc en fait, ils sont tous les deux avec toi. C'est le début du film. Hein, et on a l'impression que tu leur demandes, enfin, ou en tout cas, ils te proposent de te raconter qui ils sont. Mmh. Je pense que tu as dû suivre une certaine chronologie dans la rencontre avec eux et leur histoire. Et donc, ils t'emmènent dans ce parc qui est vide, et ils sont tous les deux, avec toi, et toi avec ta caméra. Et donc, Christina et Roméo t'expliquent comment vivaient les Roms, les tziganes, parce qu'ils parlent de tziganes, qui campait dans ce parc donc il y a quelques temps, peut-être 2 ans ou en tout cas un certain temps. Et ils étaient très nombreux et ils te racontent qu'ils se sont fait déloger, que la police est venue, ils étaient très nombreux les policiers, ils leur ont demandé de partir. Et à ce moment-là, dès ce moment-là, on sent qu'ils s'adressent à toi. Mais qu'en s'adressant à toi, il s'adresse à ta caméra. Et que donc, en s'adressant à ta caméra, il s'adresse à nous, spectateurs et spectatrices. Mm-hmm. Et dès le départ, le ton est donné sur la verve et la vitalité de ces deux jeunes qui vraiment, chacun a vraiment sa manière de voir et n'a pas sa langue dans sa poche et a son avis sur ce qui leur arrive. Et donc, voilà, très vite, Christina, donc à toi et à la caméra, mais pourquoi nous avoir chassés ? On était très tranquilles ici. Pourquoi ne pas nous avoir donné des poubelles, des WC publics ? Pourquoi ? L'eau, il fallait la tirer à la borne dans la rue. Et Roméo, on était très nombreux et ils nous ont chassés. Moi, quand j'étais dans ce parc, c'était bien, ça ne dérangeait personne. Mais après, ils en ont eu assez. Et ils nous ont expulsés. Et on sent que c'est déjà une incompréhension terrible, parce qu'ils embêtaient personne, ils étaient... Voilà, ils vivaient relativement difficilement, mais quand même, ils avaient des abris et ils étaient... Ils s'organisaient entre eux. Et on t'entend, donc ça va être la fin de l'extrait, mais je suis désolée, je suis un peu longue, mais je pense que vous comprendrez mieux de quoi il s'agit en n'entendant que les langues roumaines et roumaines, peut-être, juste. Et toi, Nico, tu commences à poser la question, et faire sa vie en Roumanie, c'est vraiment impossible. Et Christina, c'est impossible, on n'y pense même pas. Rester chez toi en Roumanie et avoir de quoi survivre, c'est impossible. Voilà. On écoute.
În partea asta, tot aici.
Hai să vedem, să vedem.
Deci, începând de acolo și până în partea aia, la Europa. Aici se trebuie la mătătorată. Aici se dau frații mei, nevestele lor.
Aici își dădeau foc la cabluri. Aici, iară. Aici, așa. Las că se mai vede câteva table cum desfăceau țigani.
Dar și pe aici așa erau, erau țigani. Pe aici și-au pus corturile, bărăcile lor săraci. Aveau și copiii lor lângă ei. Numai ce se ruptă un cort aici. Erau mai mulți copii. Dar pentru cine ar dat afară? Că am fost foarte liniștiți aici. De ce nu ne-au adus gubele? Că se există gubele. De ce nu ne-au adus WC-uri publice? Pentru ce? Că trebuia să ne aducă și nouă chestia asta, că doar apă ne aducem de aici, de la cizmeaua asta de afară.
Când am venit aici, în parcul ăsta, au fost cât de cât bine, că nu prea deranja nimeni. Dar, în schimb, după ce s-a aflat de noi, eram foarte, foarte, foarte mulți români, i-a dat afară de aici. A venit foarte, foarte multă poliție, cred că 40-50 de mai mult de polițai, și ne-a dat afară. A venit și primărie, au venit și toți, dar eu nu știu cu ce deranjează locul ăsta.
Să facă o viață în România, nu se poate.
Nu se poate deloc. Nici să ne gândim pe așa ceva, nici gând. Să-ți faci o viață în România, să stai în România, să stai la casa ta, să mergi la lucru, să ai un ban măcar să câștigi, doar nu ai de unde.
Și cum ai crescut, Cristina?
Foarte greu. Foarte greu. Din cauza că suntem 9 frați.
Nous sommes sur Radio Libertaire dans l'émission d'Adoc. On a déjà traité le sujet. Nous venons d'écouter un premier extrait du film de Nicolas Hans-Martin, Roméo et Christina. Nicolas, on va juste aborder un tout petit peu ce film avec toi. Donc c'est ton troisième film avec des Roms. Toi, tu parles de tziganes plutôt que de Roms. Voilà, est-ce que tu peux peut-être en quelques mots nous resituer dans ce que c'est que les Roms par rapport aux Tziganes ou pas, les gens du voyage qui ne n'en sont pas, et ces mélanges qu'on fait, nous, de notre côté
Les gens du voyage, c'est une catégorie administrative. En fait, les voyageurs, si, parmi les voyageurs, il y a beaucoup de Tziganes, il y a des Yéniches qui sont des autochtones. Roms, Tziganes, moi je dis Tziganes. Roméo, s'il parle roumain, il dit tzigane. C'est un tzigane. S'il parle romanès, il dit mais c'est un rom. S'il parle français, il dit je suis gitan.
Et ben voilà.
Voilà.
Okay.
voilà, ça voyage d'une langue à l'autre. On peut dire, juste dire pour désigner les Roms, c'est qu'il y a des mots exogènes, tziganes, qui vient d'un mot grec, intouchable, qui a pris le synonyme d'esclave pendant très longtemps dans les Balkans, la région balkanique, carpathique. Le mot Rom, qui veut dire homme, nous autres, là, on est des gadgets, on est des péquenots.
Vous n'êtes pas des hommes.
On n'est pas des Roms. Moi, j'ai la chance maintenant d'être un raclo éventuellement. Mais... Et donc voilà, les mots endogènes, c'est vraiment Rom, Manouche, Sinti. Et Tzigane, Romanichel, Boumian en Provence, tous ces mots-là, Gypsy, à cause de l'Égypte, on a cru qu'il venait d'Égypte. Tout ça, c'est des mots exogènes. Mais les mots qui désignaient Tzigane en langue Tzigane, c'est Rom, Sinti, Manouche. Calo pour les gitans, noir, les noirs, voilà.
D'accord.
Mais les Roms parlent de nation Rom, voilà, tous ces groupes qui forment la Romensa, l'ensemble des Roms.
Voilà, et qui sont très hétérogènes.
Et qui, c'est un peuple mosaïque, transnational, translinguistique, avec la romanichible, la langue romanie, qui quand même unifie ce peuple. Moi, je peux parler. Avec un tzigane serbe, un tzigane laiton un peu moins, et un tzigane américain.
D'accord. Donc toi, tu as eu envie, tu as voyagé, tu as découvert, tu as eu envie, tu t'es intéressé à...
Ah, j'ai eu plus qu'envie, j'ai reconnu quelque chose qui m'a complètement avalé, j'emploie ce mot-là à dessein... Si je le dis en roumain, là, cette fois-ci, je vais dire « Momancat viața, tzigani », ils m'ont mangé la vie, les tziganes. J'emploie le terme « manger » parce que c'est une civilisation de l'oralité, le mot « manger » est très important en romanesque. Et moi, je me suis fait happer par les Roms pendant 20 ans, 25 ans. Et Roméo et Christina, vient aussi après toute cette longue aventure... entre la France et Marseille, entre Marseille et la Roumanie, pendant tant de temps, à apprendre la langue, les langues, et à rencontrer les tziganes.
Voilà. Mais plus concrètement, donc, quel est le point de départ de ce film ? Comment tu les rencontres ? Et comment tu décides de faire un film ?
En fait, le film, et ça je l'ai retrouvé dans le film de José en le revoyant hier... le film, c'est-à-dire qu'il y a des images de choses tournées à certains moments dans les baraques sur le campement quand tu fais ton film et les gens se voient. Mon film précédent, il circulait aussi dans les terrains vagues, dans les caravanes, des Roms l'avaient vu, des Tziganes l'avaient vu dans des salles de cinéma dans le cadre du festival c'est un désir partagé de film avec Roméo et Christina. Je suis pas allé les chercher. C'est plutôt eux qui sont venus. J'ai retenu un petit peu parce que je sais l'aventure d'un film. Je sais ce que c'est que l'aventure d'un film, mais je sais ce que c'est que l'aventure d'un film avec les tziganes. Donc, et puis j'ai pas résisté très longtemps. Enfin voilà que j'ai. Donc le film est vraiment d'un désir de film partagé par eux et moi.
Et eux, leur désir de film, c'était quoi ?
Plein de choses, mais pour reprendre ce que tu disais, très certainement se saisir de l'occasion d'avoir une voix. Mm-hmm. Et c'est vrai que le film s'ouvre sur cette séquence-là, parce que c'est quand même pas le début de notre rencontre, mais le début pas le tout début, mais le début du tournage, quoi, qui durera 3 ans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là... La question de l'intimité, elle n'est pas au cœur du film. L'intimité dans un film, ça se construit. Elle n'est pas donnée d'entrée de jeu, sinon ça. Voilà.
Alors c'est quelque chose qu'on va développer ensuite dans la discussion. Là, je vais donner la parole à Caroline, qui va vous présenter José Vieira.
Bonjour José. Bonjour tout le monde. Alors, José, tu es né au Portugal en 1957. Tu es arrivé en France dans les années 60 avec une vague d'émigration clandestine fuyant le Portugal de Salazar. Et tu grandis en France. Depuis 1985, tu as réalisé une trentaine de documentaires peut-être plus, hein, depuis que le petit résumé que j'ai lu.
On en reste à 30.
notamment pour la télévision, France 2, France 3, la 5e, Arte. Tu as consacré une grande partie de ton travail à la question de l'immigration, avec notamment, alors je vais citer quelques films, mais peut-être que tu voudras en rajouter, La photo déchirée, Le pays où l'on ne revient jamais, Les gens du Salto, Chronique de la renaissance d'un village. Est-ce que tu voudrais en rajouter
Je veux retrancher un.
Ah, retranchons.
Jean du Salto n'est pas un film. Jean du Salto est un travail d'édition DVD avec La photo déchirée, avec d'autres témoignages. Voilà.
D'accord.
C'est pas un film.
D'accord, donc c'est une compilation.
Voilà, c'est une édition DVD, j'appellerais, ouais.
D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler de Souvenirs d'un futur radieux, qui est sorti en 2014. C'est l'histoire croisée de deux bidonvilles qui se sont construits à 40 ans d'intervalle sur un même territoire, à Massy, dans la banlieue sud de Paris. Dans les années 60, le premier bidonville, dans lequel tu as toi-même vécu, était peuplé par des immigrés portugais. Dans le second a été construit au début des années 2000 par des Roms. Et donc ce film, en fait, mêle des images d'archives, tes souvenirs et des images d'aujourd'hui, avec les Roms et le bidonville d'aujourd'hui. Avec ton récit, en fait, tu mêles ton histoire personnelle, tes réflexions, et tu nous entraînes d'une immigration à l'autre. Avec comme réflexion, sur le fait que, comme les Portugais en leur temps, les Roms sont confrontés aujourd'hui à la méfiance, à la violence, aux discriminations, et ils tentent par tous les moyens de s'en sortir. J'ajoute que ce documentaire a été distingué à plusieurs reprises. Il a obtenu notamment le prix Mario Ruspoli au Festival international Jean Rouge de Paris, et le prix de la compétition internationale aux escales documentaires à La Rochelle. On va écouter le début de ton film. Pas besoin de traduction puisque c'est une voix off en français. C'est pas le tout début, c'est un moment en fait où tu expliques un petit peu, où on comprend en fait que ce film est une lettre à ton père. Donc on écoute cet extrait. Qui se situe tout de même au début.
Tu dois t'en douter, je n'ai pas que de bons souvenirs de mon enfance à Massy. Dans ce paysage, il y a mon premier jour d'école. Dans la cour de récréation, je suis cerné par des rires moqueurs et cruels, sans un mot pour me défendre. La nuit, quand je rêvais que je volais, les toits des maisons étaient rouges. Il n'y avait pas cette ville-là dans mes rêves. J'imagine que tu reconnais le paysage. Les champs au bord de l'autoroute A10, avec vue imprenable sur les contreforts du grand ensemble de Massy. Je me rappelle que je venais jouer par ici avec mes copains. Autour de ce verger où tu vois la maison blanche. Nous habitions à 300 mètres d'ici. Notre bidonville était juste sur la gauche. La caméra semble l'avoir évité. C'était il y a 40 ans passés. Tu n'as sans doute pas oublié ces trois tours qu'on voit au fond et qui furent pendant 5 ans notre horizon urbain. Les arbres ne cachaient pas encore les immeubles au pied des tours qui s'érigeaient tels les remparts d'une cité que nous n'avions pas le droit d'habiter. C'est toujours la même histoire. Là-bas d'où l'on vient, l'espérance s'est fait la malle et les gens n'ont pas d'avenir à offrir à leurs enfants. Tu connais l'histoire. C'est toujours la même. Un pays en crise, les riches qui s'enrichissent et les pauvres qui trinquent. Les émigrés sont des oiseaux de mauvaise augure. Ils apportent des mauvaises nouvelles du monde. Ils viennent de villages où il n'y a pas de travail, où ils n'ont pas de terre. Ils fuient une de ces démocraties libérales où les plus démunis n'ont aucun droit. Nous avions fui une dictature où les grands propriétaires terriens étaient de véritables seigneurs féodaux. Là-bas, d'où nous venions, des gens travaillaient du matin au soir pour un bol de soupe et un bout de pain. Nous venions du Portugal. Ils viennent de Roumanie.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire. Dans l'émission d'Adoc, on a déjà traité le sujet. On vient d'entendre un extrait du film de José Vieira, Souvenir d'un futur radieux. José, est-ce que tu peux nous dire comment ce film s'inscrit dans ton parcours ? Donc, il vient après une longue suite de films sur des sujets très similaires, dont un celui d'avant qui faisait déjà un parallèle, donc le bateau en carton, qui faisait déjà un parallèle entre les deux bidonvilles.
Non, le bateau en carton, c'était... j'ai suivi un groupe de Rome donc, pendant 2 ans. Et le bateau en carton, c'était un film sur ces 2 ans qu'ils ont vécu avec 3 expulsions, enfin, avec la vie dans les bidonvilles, sur des parkings, voilà, avec des expulsions en série, avec voilà, la vie de bidonville, quoi.
D'accord.
Et eux qui racontaient. En fait, je voulais faire un film sur des immigrés, comme j'en ai fait beaucoup, quoi. Mm-hmm. Pour moi, c'est des immigrés comme les autres. Voilà. Mm-hmm. Donc j'interrogeais des immigrés pour savoir quel était leur projet d'immigration, qu'est-ce qu'ils voulaient faire de leur vie, comment ils voyaient la suite, etc. Voilà, c'était dans ce cadre-là. Moi, au moment où je commence à découvrir les bidonvilles autour de Paris, je suis en train de finir un film sur les bidonvilles où j'ai habité. Donc je me dis, mais je suis en train de travailler sur l'histoire alors que les choses se passent devant moi, quoi. Les bidonvilles sont là. Donc c'est là que je suis parti. En plus, c'était à Massy, là où j'avais habité. Donc, voilà.
C'était vraiment exactement au même endroit.
À 300 mètres près, on était... là où ils habitaient, moi, je venais jouer quand j'étais petit, donc je connaissais très bien l'endroit, donc j'étais en terrain connu, quoi.
Mm-hmm. D'accord. Et donc, du coup, travailler sur ces bidonvilles avec les Roms, en fait, tu t'es retrouvé au même endroit un peu par hasard en faisant ton film d'avant, et tu t'es dit c'est le même endroit, et c'est là que l'idée a surgi,
je pense que ça a été un moment, le fait de découvrir à Massy, alors qu'il était en train de finir ce film qui se passait à Massy avec des Portugais, de découvrir que des Roms étaient là, des gens qui venaient de Roumanie, directement, bon, ça fait tilt dans ma tête, quoi. Mm-hmm. Et puis je suis rentré, et puis alors le tilt, il a été... puissance 10, c'est-à-dire que je rentre dans le bidonville, alors avec une certaine appréhension, parce qu'on débarque dans un lieu que les gens n'ont pas envie forcément que vous veniez, etc. Voilà, il faut y aller au mollo, quoi. Et puis, tout d'un coup, je me sens dans un univers familier. C'est d'abord les odeurs, quoi.
Ah oui?
Voilà. C'est très particulier, les odeurs d'un bidonville. Alors, je ne vous dis pas si on se promène autour du bidonville. Là, c'est très particulier. Voilà, c'est des chiottes à ciel ouvert, quoi. Donc, il y a ces odeurs-là. Il y en a qui sont comme plus agréables. Mais l'odeur de la boue mélangée avec les eaux usagées, etc., c'est très, très reconnaissable. Donc. Et puis, il y a la boue aussi. C'est-à-dire que on s'enterre, etc. Donc, je retrouve des sensations d'enfant, quoi.
Mm-hmm. Et voilà. Tu dis, quand j'y suis arrivé, c'était un peu délicat. Tu n'es pas arrivé direct avec la caméra, j'imagine.
Si.
Ah oui, d'accord. Tu es arrivé direct avec la caméra.
Oui, je suis arrivé directement avec la caméra, tranquillement. Et tout le monde a cru que j'avais un appareil photo et j'ai commencé à photographier les gens. Mm-hmm. Enfin, c'est-à-dire que les gens sont posés devant la caméra et j'ai joué le jeu.
D'accord.
Et la fois d'après, je suis revenu avec plein de photos pour leur offrir. Mm-hmm. Et je suis devenu leur photographe, alors je ne suis pas du tout photographe. Et puis j'ai fait, je ne sais pas, des milliers de photos que je leur ai données. Mm-hmm. Voilà. Et après, dans un deuxième temps, j'ai dû faire une trentaine de films pour eux.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, ils voulaient qu'ils filment ça, un anniversaire, un baptême, une fête, la fête des Florines, enfin, toutes sortes de choses qui se passent parce qu'on vit au présent, quoi.
Mm-hmm.
Voilà, on n'est pas chez les Portugais. Je veux dire, quand je dis chez les Portugais, je parle chez moi. Hein,
Tu veux dire que les Portugais sont beaucoup plus ancrés dans l'histoire
Non, ça veut dire que les Portugais, ils sont surtout ancrés dans la peur du lendemain. Quoi. À ce moment-là, je parle quand on est arrivé.
Oui.
Et donc, le présent, il n'existe pas. Quoi. Mm. Alors que ce que j'ai retrouvé chez les Roms, c'est qu'on vit au présent. Quoi. Alors évidemment, on sait très bien que les flics vont venir dans une semaine ou peut-être dans 2 jours. Et ben, on vit quand même ce jour-là. Quoi.
Mm-hmm.
Voilà. Et ça, c'est pas ce que j'ai vécu, moi. Mm-hmm. Alors que nous, on vivait pas... Nous, on a été, moi, j'ai vécu 5 ans dans un bidonville qui a duré presque 14 ans, au total. Mais Les gens, on vient d'une autre société, même si j'ai connu des gitans au Portugal quand j'étais petit, mais on vient d'une société paysanne, rurale, dans un pays, étouffant, mm-hmm. voilà, pour oui. résumer la situation. Donc, et où les gens, ils n'ont aucun. Ils ont peur, il y a la peur du lendemain sans cesse, et où les gens sont quand même dans une situation assez compliquée, quand même, au niveau de croûter tous les jours, quoi. Donc, c'est un monde très différent. C'est ça qui m'a fasciné, en fait. C'est-à-dire que j'ai retrouvé des choses familières, et en même temps, il y a une énergie qu'il y a dans toute émigration, puisque les gens sont jeunes, ils cherchent une vie meilleure, donc voilà, ils sont pas, voilà, ils avancent, quoi. Ils veulent avancer. Et on leur met plein de bâtons dans la roue, mais ils continuent à avancer. Et ça, j'ai trouvé que c'était une force incroyable, quoi, qu'ils avaient. Mm-hmm. Et que j'ai trouvé, qu'on trouvait aussi chez les Portugais aussi. Mm-hmm.
On va faire une première pause musicale.
C'est l'heure. Bon, on est parti pour discuter, mais on fait une pause. Et donc, cette pause musicale, en fait, on l'a choisie dans ton film, Nicolas. Parce que tu as plusieurs musiques dans ton film qui sont vraiment d'un même groupe, Gypsy Band.
Nadara Gypsy Band. Il n'y a que le générique de fin.
Il n'y a que le générique de fin. C'est le générique de fin qu'on a choisi.
D'accord.
Et donc, on s'est dit que c'était l'occasion de l'écouter.
Très bien.
En fermant les yeux, presque.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire, dans l'émission de l'Association des cinéastes documentaristes ad hoc, avec José Vieira pour son film « Souvenir d'un futur radieux » et Nicolas Hans-Martin pour son film « Roméo et Christina ». Donc, nous souhaiterions aborder la question du point de vue que vous abordez tous les deux, notamment la question des préjugés qu'on a très souvent dans la société par rapport aux Roms, et de savoir comment vous avez réfléchi cette question des préjugés. Est-ce que un de vos buts c'était de lutter contre? J'imagine que vous êtes posé la question, en tout cas. Comment est-ce que vous avez abordé cette question? Comment vous l'avez travaillée? Est-ce que l'un de vous deux veut répondre sur ça?
C'est-à-dire que moi, les préjugés, je connais bien, parce que les clichés sur les Portugais, il y en a tant qu'on veut. Hein. pas forcément ceux qu'il y a sur les Tziganes. Et quand, moi j'ai commencé mon film en 2008, c'était impressionnant.
Ah oui.
C'était absolument impressionnant. Alors, ça a bougé quand même, hein. Les lignes ont bougé déjà. Oui. C'est impressionnant. Moi, j'étais scotché, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on leur déniait le titre de chercheurs de vie meilleure. C'est-à-dire, c'est des gens qui débarquent juste pour grappiller, mendier, etc. Ils résumaient les gens à ça. Ils n'étaient pas du tout vus comme des immigrés, quoi.
Oui.
Voilà. Et comme des gens sales, affreux et méchants, quoi. Clairement, quoi.
Mm-hmm.
Donc, moi, je me souviens de quand le film Le Bâton en carton est sorti, j'ai mon frère, qui m'a envoyé un mail en me disant merci d'avoir changé mon regard.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que les gens, ils avaient un regard des pauvres misérables qui sont... Alors, tout le discours politique qu'il y avait autour de ça, c'était absolument... immonde, hein. C'était immonde. Sarkozy, Manuel Valls, etc. Immonde, discours sur les Roms. Et on avait l'impression que c'est un envahissement, alors qu'ils étaient 20 000 et que ça représente 0,03% de la population française, quoi.
Mm-hmm.
Donc il y avait une espèce de... Et ça faisait la une des médias, évidemment, de Valeurs Actuelles, mais notamment j'ai un extrait dans le film de la matinale de France Inter, absolument dégueulasse, quoi. Le chapeau du mec qui, à cette époque-là, animait la matinale, est dégueulasse, quoi. Mm-hmm. Délinquant, etc. Enfin, on leur colle toutes les étiquettes, en s'interrogeant, mais, je veux dire, on ne s'interroge pas par hasard. Voilà. Donc la question, pour moi, elle est essentielle. Je ne sais pas comment Nicolas a vu la chose. Pour moi, c'était parce que j'avais vécu aussi une enfance qu'avec des préjugés sur nous, voilà, sur les Portugais, parce que, franchement, les gens qui voyaient ça à ce moment-là, qui voyaient notre bidonville, les immeubles qu'il y avait en face, au grand ensemble de Massy, ils devaient se dire, mais pourquoi ces misérables, ils restent là? Mais ils n'ont qu'à retourner chez eux. Et bien, c'est ce qu'on disait aux Roms. C'est exactement la même chose.
Mm-hmm.
Mais comment ils peuvent vivre dans un taudis pareil, dans cette boue-là? Mais c'est inhumain qu'ils retournent chez eux. Même des gens qui nous voulaient, à la limite, nous voulaient presque du bien. Dire, mais non, ils seraient beaucoup mieux chez eux. Ben oui, mais non. Mais non.
Mais d'ailleurs,
chez nous, il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas... On ne peut pas bien manger. Voilà, c'est ça. Mmh. Et c'est ce que disent les personnages du film de Nicolas. Chez nous, il n'y a pas à manger. On ne peut pas. Moi, j'étais en Roumanie, il n'y a pas.
Alors, je propose qu'on entende un extrait. Parce qu'en fait, on a choisi un extrait justement à peu près de ce que tu es en train de dire. On entend ça tout à fait dans le film. On entend les réactions en fait de personnes à l'époque des Portugais. Donc et en fait, il y a en fait dans tout ton film. Tu prends un malin plaisir à nous perdre un petit peu, à nous égarer sur est-ce qu'on entend, bon, quand on parle pas la langue. Moi, vraiment, je savais plus si on entendait du portugais. De temps en temps, on reconnaît un peu, mais pas trop. On n'est plus très sûr. Est-ce qu'on entend du portugais ou du roumain? Les images, bon, c'est assez évident, mais quand même, oui, tu mélanges les deux.
J'ai pris un malin plaisir.
Et c'est très jouissif. C'est très agréable, en fait, à être perdu comme ça, parce que finalement, ça porte un propos qui est essentiel et c'est vraiment passionnant. Donc là, il va y avoir un peu du mélange des deux et puis ta voix off aussi. Donc on écoute l'extrait du coup numéro 5, chers amis, à la technique.
Dans les bidonvilles, les lois de la République semblent ne pas avoir cours. Mais nous sommes bien placés pour le savoir. Ils sont les étrangers absolus nommés Roms. Nous étions des étrangers réduits à une force de travail et nommés Portugais. Les bidonvilles où nous habitions étaient tolérés parce qu'il y avait là un gisement de main-d'œuvre à exploiter.
Maintenant, ils deviennent arrogants, ils deviennent absolument dangereux. D'abord par le nombre, ils se sentent nombreux, ils profitent évidemment. Et puis alors du point de vue hygiène, alors n'en faisons pas, ils sont sales, malodorants, ils ne se lavent pas.
Pourquoi est-ce que vous avez mis cette pancarte?
Comment?
pourquoi avez-vous mis cette pancarte?
C'est parce qu'ils démolissent la clôture, là. Alors, comprenez-vous, mais je tiens pas à ce qu'ils viennent. S'ils passent là, ils repartent plus, vous savez.
Ça veut dire quoi, ça?
Ils viennent avec une fourche. Vous voyez, vous loger là-dedans, vous?
Mais quand on les met dehors, où vont-ils aller? Vous croyez qu'eux ont envie de loger là-dedans?
Ils sont des Yougoslaves, des Portugais, là.
Et alors?
Eh ben, alors, chez eux. Ils emmènent à Orly, puis ils prennent l'avion.
Alors, pour nous, cette intervention aujourd'hui, c'est manifester que nous ne pouvons pas continuer à laisser faire, que d'expulsion en expulsion, les gens sont chaque fois plus écrasés, que ces expulsions sont voulues, organisées, qu'il y a autant de répression et de discrimination en France comme en Roumanie, et que nous, citoyens, notre association, comme tant d'autres citoyens, nous ne pouvons pas supporter que des personnes puissent vivre dans telles conditions.
Ils sont venus en France, pourquoi?
Ils viennent en France parce qu'ils veulent manger, c'est tout simplement. Ils sont endettés jusqu'au cou, beaucoup d'entre eux. Et ici, ils viennent pour voir s'ils peuvent gagner un petit peu d'argent et s'en sortir. Donc leur situation est vraiment très, très, très précaire. Et certains disent, mais pourquoi ils sont là, ils sont mal? On sait que là-bas, c'est encore pire.
Je ne sais pas si tu as reconnu cette dame. Elle s'appelle Grégoria. Quand elle avait 20 ans, elle a immigré d'Espagne. Elle n'a pas oublié. Peut-être te souviens-tu qu'elle venait dans notre bidonville faire de l'alphabétisation. Elle est toujours là.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Libertaire. Dans l'émission, on a déjà traité le sujet. Et José Vieira, est-ce que tu veux commenter cet extrait qu'on vient d'écouter de ton film « Retour vers un futur radieux » Souvenir d'un futur radieux.
Carrément, voilà. Retour.
Je crois que j'ai confondu avec un autre film qui n'a rien à voir.
Retour vers le futur, je crois. Vers le futur.
Non, j'avais repéré, j'avais déjà utilisé ces témoignages de voisins du bidonville de Champigny. Voilà. Bidonville de Champigny, c'était quand même 14 000 personnes au plus fort. Hein.
Donc c'était des Portugais aussi à l'époque.
Là, c'était pratiquement que des Portugais. Ouais. Mm-hmm. C'était des riverains. Ça ne devait pas être facile pour eux. Mais là, ils en mettent un paquet sur les Portugais. Donc le jeu consistait à ne pas voir les gens, c'est-à-dire que c'est quand même du noir et blanc, on voit que c'est des archives des années 60 à peu près, et c'était de mettre ça en off, et puis voilà, le tour est joué, et en fait le discours c'est le même, quoi. Mm-hmm. Et le discours n'a pas bougé, voilà, c'est tout, pour dire simplement que... Et puis aussi, pour rappeler aux Portugais qui parfois ont tendance à... Et Portugais, pas seulement Portugais d'ailleurs, hein, les autres immigrés qui ferment la porte maintenant, parce qu'il y en a qui ferment la porte, plus qu'on le croit, et malheureusement, simplement pour leur rappeler par où ils sont passés, quoi. Et que, ben voilà, c'est enregistré, quoi. Mm-hmm. C'est enregistré, ce qui s'est passé. Des choses sont enregistrées, quoi.
Et là, juste après avoir mis ces paroles vraiment de rejet, tu as mis un passage avec cette femme, au contraire, qui défend... Voilà, j'imagine. On n'entend pas tant que ça les riverains, mais là, on entend les deux opposés un peu côte à côte.
Non, mais pour dire quand même, c'est quand même essentiel. Alors qu'il y a des gens qui sont solidaires, quoi.
Ouais, ouais.
et que moi, j'ai le souvenir. J'avais 7 ans quand je suis arrivé, donc j'ai le souvenir qu'on a quand même vécu 2 ans sans que personne ne vienne nous tendre la main. Enfin. Ouais, nous tendrons la main, parce qu'à un moment donné, les gens, on n'avait pas d'eau, il a fallu creuser des puits, il y avait absolument rien, quoi. Et la mairie, tout le monde s'en foutait, quoi. Alors, des gens passaient, mais les premiers qui se sont un peu intéressés à notre sort, on va dire, c'est les cathos. Mmh. Voilà. Mmh. Alors, nous, on allait à la messe, parce qu'à l'époque, j'étais élevé dans une rigidité catholique assez désagréable, mais donc c'est eux qui nous ont tendu la main, il y a des gens qui nous ont tendu la main. Et là, à Massy, quand j'ai tourné avec les Roms, il y avait cette dame, il y avait une association de solidarité avec les familles roumaines, mais c'était quand même, c'était tout. Ouais. Et il y avait tellement de travail à faire. Il y avait tellement de choses à faire avec les enfants. Parce que les enfants n'allaient pas à l'école. Les enfants n'étaient pas scolarisés. C'est obligatoire. Mais non, la mairie met des bâtons dans les roues, comme d'habitude. De toute façon, ils passent leur temps à mettre des bâtons dans les roues des gens qui cherchent une vie meilleure. Bon, c'est la même chose avec les sans-papiers. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Voilà.
Mais avec les Roms, il y a cette question qu'ils sont européens. Enfin, ceux de Roumanie et de Bulgarie, ils sont européens. Normalement, depuis 2007, ils ont le droit de circuler librement.
Non, c'est pas aussi facile que. Non, c'est pas. C'est vrai et pas vrai. Oui, ils ont
oui,
le droit de.
La loi,
ils ont... Mais le problème, c'est que et je le dis dans le film, la communauté européenne, l'Union européenne, pardon, ils ont prévu un truc très simple. On ne peut pas rester plus de 3 mois dans un pays quand on ne peut pas justifier de ressources. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plus pauvres, ils n'ont pas le droit.
Que des visas de séjour touristique.
Voilà. Oui. Voilà.
Bon, c'est assez. Donc, voilà, c'est aujourd'hui, pour les pauvres, la seule façon de voyager, c'est de partir clandestinement, sans passeport, et d'arriver sans papier. Mmh. Sinon, tu ne peux pas voyager. Voilà. Les Roms ont la chance d'être dans l'Union européenne. Enfin, la chance, oui. La chance d'être, de pouvoir au moins circuler un peu, quoi. Mmh. Voilà.
C'est-à-dire qu'ils repartent, ils reviennent.
Mais... de toute façon, moi j'ai vu les flics arriver à 6 heures du matin, encercler le bidonville et relever tous les noms. On ne bouge pas, hein. On ne sort pas de sa baraque. On ne va pas pisser, rien du tout. Hein. On ne sort pas de sa baraque, on prend tous les noms, on revient 3 mois après, et ceux qui sont encore là, on les vire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Toujours à 6 heures du matin, en tapant sur la porte très fort.
Que ce soit bien impressionnant.
Oui, non, mais cette violence, elle est terrible.
Bah, la rafle, la tradition de la rafle.
Mm-hmm. Ouais. Pour revenir à la question des préjugés et de cette façon de s'en emparer, d'en avoir conscience, de vouloir les déjouer, Nicolas Hans-Martin, dans ton film Roméo et Christina, j'ai l'impression qu'on va plus loin. Et c'est... Moi, je trouve ça très, très intéressant. C'est-à-dire que, comme tu es dans une telle intimité avec eux, tu nous emmènes dans leur intimité, justement, dont tu es témoin. Et nous, spectatrices, spectateurs, bien sûr, il y a des tas de choses qu'on comprend grâce au fait qu'on voit qu'ils n'ont pas le droit de travailler en Roumanie, qu'ils n'ont rien à manger. Mais on voit aussi... comme disait José tout à l'heure, qu'il y a une vie au présent et que du coup, effectivement, ça ne correspond pas à nos valeurs. De se dire, l'avenir, le futur radieux, là, le futur espéré par Roméo et Christina, c'est d'avoir un enfant. Et puis bon, très clairement, bien sûr, d'avoir un toit et un travail, ça c'est très très clair. Mais dans leur mode de vie, dans leur mode de relation... tu nous emmènes dans quelque chose qu'on va pas toujours comprendre. et je trouve que tu trouves juste la bonne place pour qu'on soit pas voyeur, témoin, et que en même temps on accepte que on n'a pas forcément les mêmes règles. Et pour ça, on a choisi un extrait. Où ils se disputent, Roméo et Christina se disputent, et on les voit plusieurs fois, et d'ailleurs pas que entre eux, on voit bien que dans le campement sous la gare, il y a aussi des altercations, il y a des mots durs, il y a des injures, ça passe aussi par cette relation-là. La discussion, ça va tout de suite dans la dispute, mais c'est vivant, c'est... Il y a quelque chose d'une vitalité incroyable là-dedans. Et donc, ce qu'on a choisi comme extrait, c'est la deuxième fois que tu retournes en Roumanie avec eux et que là, on est dans la famille de Christina. On arrive un peu à la fin du film. Et où Roméo, qui, dans un premier temps, lui, sa mère, n'est pas du tout au même endroit. Donc... il est finalement venu habiter chez la famille de Christina. Et bon, lui, il se sent vraiment pas du tout à l'aise dans cette famille. Évidemment, il y a des histoires de pouvoir, d'autorité. Il a l'impression qu'il a rien le droit de faire.
Mais il fait des conneries. C'est-à-dire que, par exemple, l'argent, il va le perdre au jeu. Il va jouer aux machines à sous. Il va essayer de jouer. Il va essayer de gagner.
Il se trouve que bon, c'est pas...
Il perd comme presque toujours. On perd dans ce genre de choses. Mais en même temps, on comprend très bien que en plus de ça, moi, j'ai l'impression que Christina, elle le suit.
Bien sûr.
Il y a quand même un espoir de peut-être gagner, parce que de toute façon, sinon, il n'y a rien. Hein. Donc, le peu d'argent qu'il a, il va essayer de le faire fructifier. Voilà. Et du coup, il rentre, il a tout perdu. Et là, c'est le clash. Surtout qu'en fait, lui, il veut repartir. Christina est enceinte à ce moment-là. Dans le couple, il y a cette tension. Et c'est là que ton film, au-delà d'un film sur des Roms, sur cette condition de vie, sur une histoire d'amour, une histoire entre...
Oui, bien sûr.
Un garçon et une fille.
Bah, c'est ce que José disait tout à l'heure. Cette tentative des pouvoirs publics, des riverains, de déshumaniser les gens. Et enfin, c'est un peu bizarre d'être aujourd'hui là, de pas parler de point de vue de cinéma, alors que la loi Darmanin est en train de faire ce qu'elle. Enfin, on a rien ne change. C'est les choses se durcissent. C'est donc oui, tout le film. Moi, l'enjeu du film, c'était de m'approcher au plus près de Roméo et Christina, de la singularité de leur histoire après les Roms, les migrants. Je sais pas, moi, si les Roms sont des migrants comme les autres ou pas des migrants comme les autres. Ce que je sais, c'est qu'en m'approchant au plus près de la vie de Roméo et Christina, il s'agissait de raconter une histoire qui nous concernerait tous. Et l'histoire d'amour nous concerne tous. Elle est prise dans cette, si on veut parler de la migration des Roms en particulier, dans cette migration qu'on appelle pendulaire, c'est-à-dire un coup en France, un coup en Roumanie ou en Bulgarie, ça dépend d'où on vient. Mais oui, l'enjeu, c'était face à cette déshumanisation permanente avec des photos de bidonvilles à toutes les couvertures de journaux, un Sarkozy hors de lui, un Manuel Valls qui envoyait sa police, de retrouver de l'humanité, quoi. Et pour ce qui est de parler fort... Ça ne veut pas dire que je m'engueule avec tout le monde.
Voilà. Non, mais j'ai relevé dans les sous-titres, toujours, hein, parce qu'évidemment, je ne comprends pas, mais qu'il s'envoie des injures.
C'est cette vitalité
très crue.
Voilà. Parler, José.
Juste quelque chose. Moi, j'ai tourné 2 ans dans un bidonville. Il y avait beaucoup moins de violence dans le bidonville de Rome que dans le bidonville portugais. Il y avait beaucoup plus de violence, notamment le dimanche, chez les Portugais. Ça castagnait vraiment sec, alors que chez les Roms, c'était assez tranquille, même si j'en parle fort. Ouais. Mais dans le nord du Portugal, les femmes parlent très fort. C'est des femmes fortes, elles parlent fort, elles gueulent, elles disent des insultes. Ouais. Voilà. C'est une question, les gens ne s'engueulent pas forcément.
Non, mais on parle fort, et voilà. C'est vrai que c'est la question de la vitalité de ces migrants tziganes roumains qui habitent dans les bidonvilles, le film de José ou le mien, et qui habitent toujours dans des bidonvilles, parce que c'est quand même ça qui est terrible aussi, c'est que 25 ans après, les tziganes roumains, bulgares, qui sont largement roumains, ils sont toujours dans la rue. 30 ans plus tard, ils sont toujours dans la rue. Et ça, c'est quand même particulier et parfois très attristant.
Oui. Vos deux films, effectivement, nous prennent...
Moi, je voulais dire un truc sur le film de Nicolas. Bon, évidemment, c'est un film, c'est une histoire d'amour. Mais je trouve que moi, quand j'ai arrêté le film, je me suis dit, c'est un très grand film sur l'immigration. C'est-à-dire, c'est presque un label que je décerne. C'est-à-dire que c'est quand même un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et je regarde ce film, et le film de Nicolas, et je me dis, c'est en dehors d'être un film qui a plein de qualités... qui est une histoire d'amour dans une errance, en fait, aussi. Mais c'est un grand film sur l'immigration. C'est-à-dire que moi, je retrouve... évidemment, Nicolas ne nous fait pas une voix off comme moi je fais en disant « Là, voilà ce que je vais vous dire, comment je ressens le truc. » Non, pas du tout. C'est le spectateur qui, lui... Moi, en tant que spectateur, c'est ça que j'ai ressenti. C'est-à-dire que, il y a un mot qui est ban, argent, qui est extrêmement important. Je veux dire, on ne revient pas chez soi sans fric, quoi. Ça, c'est, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Il faut, quand on revient, on est parti au pays de l'argent, on doit revenir avec de l'argent.
Voilà. Si je peux me permettre, ton film, c'est pas une voix off, c'est une voix jeu. Hein.
Oui,
c'est vrai. C'est tout guinéen avec voix off, mais, mais je trouve que là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Et comment, évidemment, ça gueule autour de ça, autour de l'argent, effectivement.
Ouais.
Mais combien de jeunes Africains j'ai entendu dire, ben moi, je peux pas retourner si j'ai pas. Ouais. Si je peux pas retourner de ma vie, quoi.
Ouais. Parce que les familles sont là, elles sont proches.
C'est ce qu'on voit. Et puis, il y a une pression. Non, mais il y a une pression.
C'est ce qu'on voit
dans le film. On sent cette pression-là.
Quand Roméo rentre chez lui et qu'il n'y a pas d'argent, ça se passe très mal avec sa mère.
Sa mère n'est pas contente du tout, non.
Ça se passe très mal.
Parce qu'il est parti pour ça. Et les immigrés partent pour ça. Alors, celui qui arrive la gueule enfarinée avec rien dans les poches, bah, ça ne vaut rien, quoi. C'est... Voilà, il est rejeté. Et dans le film, c'est le mec, à un moment, il est vraiment perdu parce qu'il se dit, putain, qu'est-ce que je vais faire, quoi.
Voilà, donc on va écouter cet extrait et en fait, surtout parce qu'effectivement, il y a cette dispute très forte dont on comprend bien quelle est sa raison concrète, et ça se termine dans...
Et peut-être
l'amour
que je parlerai de cette question sur les préjugés à partir de l'extrait.
Ça marche.
Oui, voilà.
On entend.
Eu să vină frumos în casă, să bagă bani în casă, să-și ia și el 50 mii, să meargă la aparate. Ca toți oamenii, frumos, nici ăia nu și l-au luat. El și-a luat,
doamnă, 100 de euro. Un milion, bagă-te Dumnezeu un sichiu să te bage.
Zău să ne ajungi Crăciun.
Pe bată, să ne bagi
un stuc. Pa ce-a mai bază, să nu mai ajung pe Dumnezeu ăla. Pumă și putându-l la toată cum ai. Pe muși gheațul la Lili de... Ai, pișatule, căcatule. Costul moschetar mea și îl împarte capul de-a dat drumul la mumă sa. Iar la toată când mi-a ajunge la mumă sa.
Ei, Doamne, Doamne. Mama, mama, care ești la vamă, nu?
Cu ce gură ai?
Păi când o să plec eu...
Apa când o să pleci tu să mă pișă Lili pe tine. Ce mare om ești tu? Dar bă, da, să te duci așa, mă, să te pună peste unul.
Așa umblu ca Chaplin în Franța, când mă duc.
Te iubesc, dar te iubesc în felul meu. Să-ți dovedesc, pentru mine n-ar fi greu. Dar mi-e frică și mi-e frică tare. Dacă o să mă simt, o să țin nasul la purtare.
Vous êtes sur Radio Libertaire dans l'émission d'Adoc. On a déjà traité le sujet et on vient d'écouter un extrait du film de Nicolas Hans-Martin, Roméo et Christina, où on avait commencé à parler du regard sur... De la façon de se positionner face aux préjugés envers les Roms. Et là, moi j'avais pointé que cette dispute, elle était très crue, mais d'une violence verbale, mais où l'amour sous-jacent était quand même toujours là. Et elle se termine effectivement par cette chanson sur laquelle tout le monde danse.
Oui, oui, mais la question des préjugés, moi je me la suis beaucoup coltinée avec le festival. J'ai pendant 12 ans de festival, cette question-là, on l'a retournée, et on l'a même retournée au point que les Roms, certains, nous l'ont retournée contre nous, oui, mais c'est...
Le festival que tu as cofondé à Marseille, voilà.
Mais la question du préjugé, des préjugés, elle habitait pas le film, parce que ce qui comptait, c'était le film, pour moi et pour eux. Et c'était le film qui... Donc voilà, moi je savais qu'en partant avec eux, il allait y avoir... parce que leurs vies sont prises dans de telles péripéties qu'il allait y avoir des tas de choses. J'avais compris ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire ces tensions avec les familles, la question qu'on rentre pas sans argent, que... Et je savais que bah, il allait se passer des tas de choses. Donc on s'est engagé dans le film parce que je savais qu'il se passerait des tas de choses. Et eux savaient que je savais. Parce qu'ils savaient que j'avais vécu d'autres aventures tziganes, d'autres... Et par exemple, cette séquence de jeu, elle est complètement mise en scène. C'est-à-dire que la séquence qu'on vient d'entendre, on entend Roméo se faire passablement manger la tête par Christina. Là, c'est le réel. J'attendais Roméo, je savais qu'il était allé jouer. Mais la séquence d'avant, où on voit Roméo qui joue et qui perd, on l'a remise en scène après cette séquence qu'on vient d'entendre.
Oui.
Et j'ai dit à Christina, bon bah Christina, maintenant il faut que Roméo il retourne jouer.
D'accord.
Donc elle est venue avec nous, il était hors de question qu'on y aille tout seul. Mais je veux dire, le film il a avancé comme ça, il a avancé de façon très organique et... Il y a un mot de Jacques Herouac qui dit les préjugés sont des truismes et les truismes sont vrais. Et je trouve que ça va assez bien quand on côtoie les tziganes, ça va assez bien à la vie des tziganes. Les anthropologues qui témoignent de leur tentative d'étudier les Roms disent, racontent toujours la même chose. Ils sont jamais là où on pense qu'ils sont. Quand ils font des choses, ils le font pour le gadjo qui est venu les regarder. Donc la question des préjugés, elle est sale quand elle vient de la droite, de l'extrême droite, de tous ces gens pour qui la xénophobie est le drapeau. Mais après, quand on est en empathie avec les gens et quand on partage leur quotidien, cette question de la langue, la question des préjugés, elle vole en éclats.
Et on revient plus à la question d'accepter la différence de l'autre.
Après moi j'étais à un endroit où c'est pas que j'acceptais la différence de l'autre, c'est que le monde dégagé, il y a un moment je l'ai perdu de vue. Quand je revenais, je passais tellement de temps avec les tziganes, j'étais traducteur bénévole pour Médecins du Monde, j'allais dans les bidonvilles la nuit pour essayer de soigner un peu les gens, enfin pas moi, les médecins du Monde. Il y a un moment où, voilà, puis la rue, ça avale aussi, ça prend les bidonvilles de la nuit. J'ai eu du mal à revenir. Et puis, en plus, on n'est pas très favorablement regardé hein, quand on fréquente les tziganes. Hein, l'anti-tziganisme est partout, tout le temps. Il est très souterrain, très sous-jacent. Et en même temps, très virulent. J'oublie son prénom, Philippe Fanis qui parlait des Roms, disait quelqu'un qui est musicologue, disait la musique tzigane oui, les tziganes non. C'est exactement ça, c'est ce que dit ton film à la fin. Ah d'ailleurs il y a un mot, j'aimerais bien savoir qui dit cette chose là dans ton film. Les tziganes sont là depuis très longtemps, leur culture irrigue la nôtre, enfin voilà, ils sont extrêmement forts. Les tziganes, il y en a partout, de Franz Liszt à Tony Gatliff, voilà, partout, tout le temps, je sais plus ce que je disais.
Tu parlais en général des préjugés et du fait que...
Oui, voilà, moi j'étais à un endroit où la question des préjugés,
Tu te la posais plus,
Je me la posais plus.
Et au moment du montage, tu étais toujours en immersion ou tu as pris un temps de recul?
Montage avec Annie, quand on a monté le film, moi j'ai passé le montage à me lever de ma chaise, à rire, à pleurer. Voilà, si je repense à l'aventure qui a été le film et au sort qui est fait à mes amis, à mes frères roms, parce que les expulsions, quand on arrive à la fin de ton film, qu'il y a l'image d'expulsion, elle dure pas longtemps, et je trouve que c'est très beau, c'est vraiment... Mais c'est insupportable. C'est insupportable.
Alors, on va faire une petite pause musicale et on reprend la conversation dans 3 petites minutes. Alors là, pour le coup, on va partir du côté des Portugais. On va écouter, alors avec mon accent, O Emigrante, du Conjunto Maria Albertina.
Bon,
ça va? Bon, à peu près. Donc, c'est parti.
quando vem a saudade, chora saudades sem fim. Longe dos teus, vai vivendo a recordar. Tem fé em Deus, que um dia há de voltar. Há no seu crer um só desejo afinal.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans l'émission documentaire d'Adoc. On a déjà traité le sujet. On vient de faire une pause musicale aux deux tiers de notre émission. Et nous reprenons la discussion avec nos deux réalisateurs présents pour parler de leur film qui aborde la question des Roms. Nicolas Hans-Martha avec son film Roméo et Christina et José Vieira avec Souvenir d'un futur radieux. On va poursuivre sur la question de cinéma. Qu'est-ce qu'on filme? Pourquoi? Comment? Quelles images? Quels sons? Puisque nous, dans notre émission, on aime bien aborder la construction des films puisqu'on parle de la place de cinéaste qui nous posons ces mêmes questions. Dans nos réalisations. Et donc, c'est bien pour ça que ce qui nous intéresse beaucoup dans cette émission, c'est de confronter plusieurs façons de faire. Et là, vos deux films, c'est deux démarches très différentes qui, toutes les deux, sont passionnantes, ce qui fait que ça permet de dire, oui, le documentaire, mais c'est varié, c'est chaque fois unique, ça enrichit chaque fois qu'on aborde le sujet d'une autre façon. Comment... Bon, je vois ce qu'on avait noté, je ne sais pas trop si je vais dire ça, mais par exemple, on a déjà parlé de cette violence, de cette maltraitance, de ces expulsions, de leur camp, de leur logement. Justement, comment choisir ou pas de montrer ça, de quelle façon le montrer? Est-ce que c'est par la parole? Est-ce que c'est par la façon dont eux en parlent? Est-ce que c'est d'une manière crue aller à un moment d'expulsion filmer les pelles mécaniques qui arrivent, ou les policiers qui peuvent
être violents ou qui mettent tout à sac. Voilà, ça ne veut pas dire que vous avez toujours la même façon et le même choix. C'est aussi les films qui demandent d'avoir quelquefois cette forme-là, d'autres fois une autre forme. Mais c'est simplement parce qu'on a repéré deux séquences, une dans chacun de vos films, où on s'est dit ces séquences en elles-mêmes sont intéressantes. De quoi on pourrait parler à partir de ces séquences-là? Et est-ce qu'on en écoute une
pour lancer le débat?
Ouais.
Bah oui, allons-y.
Poursuivre.
Non, vas-y, on peut commencer.
Moi, je pensais plutôt commencer par celle de José.
D'accord, ça marche.
Et puisqu'après, Nico, c'est la fin de son film, donc...
Ok, donc on va écouter l'extrait numéro 9. C'est un moment où il y a un enfant, qui raconte comment il a été contrôlé dans un parking alors qu'il était en train de jouer au foot et comment il s'est pris des gaz de la part des policiers. Donc il raconte en français, donc on va l'écouter tout de suite.
La police, hier, je rentrais dans le parking, et je jouais par là-bas. Quand il arrive, la police m'a dit, vous faites quoi là? Et nous, on a dit, j'ai rien. Donc, je reste ici pour jouer. Ah oui, première police, il m'a contrôlé. Et après, il est arrivé deuxième. Et nous, il a dit, la police, tu fais le... Genre, les enfants, il fait quoi ici? Il fait quoi ici? Il a dit, je sais pas, ils sont roumains. Et après, la police, il est arrivé deuxième, il est venu, il a fait ma chalier. Après, il a fait avec le gars. Après, je mets de l'eau dans ma bouche. Après, je me fais ça, je mords dans mon... Après, je partis à la maison, je restais dans la bougie, comme ça. Après, ça suffit, après, je dormis. Ça, c'est pour tout ce que je vous dis. Pour la police. Ils s'en foutent.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire. Dans l'émission d'Adoc, on a déjà traité le sujet. Donc, on vient d'écouter un extrait du film de José Vera, Souvenir d'un futur radieux. José, est-ce que tu veux nous dire quelques mots, justement, sur cette question de que montrer, en fait, de cette violence? Dans quelle mesure il faut la montrer parce que c'est indispensable pour comprendre leur vie, mais c'est aussi des moments pour eux où ils sont victimes en fait de cette violence. Enfin, voilà, est-ce que c'est des questions que j'imagine tu t'es posées? Comment tu les abordes en fait, cette question-là?
Prenons l'exemple parce que je ne sais pas si j'arriverai à faire un discours sur comment on aborde la violence.
La
violence qu'ils vivent, évidemment, ouais. C'est puissance 10 par rapport à moi, la violence que je vis aussi. C'est-à-dire que moi, je suis là et ce n'est pas supportable. Il y a un moment, ce n'est pas supportable. Mmh. D'ailleurs, tellement peu supportable que la police vienne te dire « Vous n'avez pas le droit de filmer, dégagez !» Alors que tu as parfaitement le droit de filmer. D'accord ? Bon, ça, c'est la violence vis-à-vis du réalisateur. Mais vis-à-vis des gens. Là, par exemple, ce môme, je ne me rappelle plus son prénom, mais il y avait plein d'enfants. Donc, ce môme, qu'est-ce qui se passe? Je suis là, je viens avec la caméra, comme je viens régulièrement, et ce môme, il me dit je voudrais raconter quelque chose. Voilà, c'est lui qui demande à raconter. Mm-hmm. C'est pas, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le parking est juste à côté du bidonville, je sais très bien où il est. Enfin, il a 200 mètres du bidonville, donc les mômes jouaient sur le parking. Donc, je ne vais pas raconter ce qu'il racontait. C'est ce môme qui vient me voir et qui dit, moi, je voudrais raconter ça. Mm-hmm. Et donc, moi, j'essaie qu'il raconte ça du mieux possible. Tout le monde est autour de lui, tous les autres. Je leur dis, calmez-vous, laissez-le parler. Voilà, et on arrive à ce qu'il explique avec son français, qui explique ce qui s'est passé. C'est un monde qui a 10 ans quand même. Mm-hmm. Il se prend des lacrymos pour rien. C'est juste un taré qui est passé par là. Tu vois, un flic taré, comme ceux qui coupent les tentes là, à Paris, place de la République et tout ça. Des malades, parce qu'il y a des malades quand même. Et qui gagnent ce monde, quoi. Donc voilà, ça c'est... J'ai souvenir, par exemple, je ne vais pas répondre théoriquement à ta question, je te le dis tout de suite, mais j'ai souvenir, au bout de 3 mois, j'ai fait un film que je leur ai donné à eux uniquement, ça s'appelait France 2008, je crois. C'était 26 minutes à peu près, avec les images que j'avais faites pour eux, un montage pour eux. Et en fait, il y avait évidemment l'expulsion, une expulsion qui a duré très longtemps, toute la journée, etc. etc. En fait, je me suis aperçu que les gens utilisaient ce film pour montrer aux autres, en Roumanie et en France, parce que je voyais bien que les nouveaux arrivés de Roumanie, ils leur montraient ces images-là, pour que, voilà. Donc, moi, j'ai compris qu'il n'y avait pas... Ils ne cachaient pas les choses. Voilà, on dit les choses. C'est ce qu'on voit dans le film de Nicolas. C'est décomplexé. Il n'y a pas... Et même Nicolas, je pense, n'a pas à dire, bah, tiens, cette scène-là, je vais l'enlever parce que ça ne donne pas une belle image, etc. C'est pas ça, il faut les montrer comme des gens gentils. Non, mais c'est des gens comme les autres. Donc, il y a des problèmes comme partout ailleurs. Et il y a de la violence, surtout, qui est exercée contre eux, quoi. Et pas, comme je disais tout à l'heure, pas tellement à l'intérieur. Mais c'est un peu... Pour résumer le truc, je dirais, quand je suis arrivé, je racontais tout à l'heure qu'ils m'ont pris pour un photographe, j'ai fait des photos. Donc j'ai ramené sans cesse des photos, des tirages. J'en ai des milliers à la maison, donc des photos. Ils voulaient donc que je sois leur photographe. Mais ils voulaient montrer des images, des belles images d'eux. Bien habillés, dans un décor qu'ils choisissaient, c'est eux qui choisissaient. Alors des fois, ils allaient changer entre temps et ils faisaient une autre photo, etc., etc. Et donc, c'est l'image qu'ils ont envie de montrer. C'est cette image-là qu'ils avaient envie de montrer d'eux. Eux, beaux. Mais après, il y a la réalité. Et personne ne m'a dit, tu ne filmes pas ça, etc. Non, on peut filmer. Il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas, je dirais, l'image qu'on donne à l'extérieur, par exemple, elle est très importante chez nous. Enfin, je parle, par exemple... Pour les Portugais à l'époque, c'était extrêmement important qu'on ne montre pas de cette misère. Et alors, au pays, on ne disait rien là-dessus, sur les conditions de vie. Or là, on est décomplexé. On dit les choses. Il n'y a pas ce mensonge qui existe de toute façon dans toute immigration. Oui. Sans mensonge, l'immigration, c'est compliqué parce qu'on ne ment pas d'ailleurs aux gens qui sont restés au pays. On ne leur ment pas. Simplement, on ne leur dit pas la vérité, quoi. On oublie certaines choses, quoi.
Mais on ramène pas l'argent prévu,
on va dire, mais voilà. Ouais. Mais je crois qu'essentiellement, c'est la réaction quand ils ont vu le film, parce qu'ils ont tous vu le film, ils ont eu tous des DVD du film, c'est l'image qu'ils vont montrer. Parfois, ils me disaient, tiens, filme ça. Dimanche, on fait une fête. Dimanche, c'est la Pâque. Il faut que tu viennes absolument filmer la fête, etc., etc., voilà. Il voulait aussi. Il y avait un dialogue entre nous, même si la plupart ne parlaient pas très bien le français. Il y avait quand même un dialogue entre nous sur qu'est-ce qu'il fallait montrer. Enfin, c'était pas l'ordre du jour, c'est qu'est-ce qu'il fallait montrer. Mais c'est un dialogue comme ça, quoi, entre nous. Quoi.
Et ouais, Nicolas, tu as acquiessé, toi, dans ce que disait.
En regardant le film de José, je me suis senti. Annick à Montelcim ce matin me disait tu dois sortir chez toi, il y a quelque chose que je trouve d'un film à l'autre et en particulier voilà ces intérieurs, cette capacité à
au contact.
Oui, mais je parle des voilà
la
beauté des baraques, leur savoir-faire de bâtisseurs qui est quand même incroyable. Ils sont et c'est en ce sens-là que les Roms sont peut-être pas tout à fait des migrants comme les autres. Il y a quelqu'un qui dit dans ton film « Nous sommes un peuple migrant ». Qui dit ça ?
Ah, c'est un Italien. C'est un Italien qui fait le parallèle entre les Italiens qui sont partis à New York, enfin qui sont partis aux États-Unis, qui étaient considérés comme des pestiférés à l'époque, hein, les Italiens.
Ouais.
Même en France, quand ils sont au début du siècle. Mais voilà, il dit « Nous sommes un peuple de migrants
».
En parlant des Italiens.
D'accord, c'est en parlant des Italiens. Voilà,
En fait, on arrive un peu à la fin de l'émission et on avait envie d'écouter quand même aussi ce troisième extrait de ton film qui est la fin du film et où, encore une fois, on est déjoué dans les émotions et les sentiments qu'on ressent. C'est-à-dire que, oui,
ils sont retournés dans ce parc qu'on a vu vide au début. Ils s'y sont installés, ils gênent personne, c'est joli, il fait beau. On se dit qu'elle va bientôt accoucher, que c'est le lieu idéal et qu'ils gênent personne. Et voilà qu'on vient encore leur demander de partir. Mais là, par contre, c'est pas la grosse violence au Karcher et tout, comme on a pu voir à la gare au début du film. C'est des femmes, des policières qui viennent, qui sont embêtées, qui, par rapport à l'état de Christina, disent qu'il faudrait peut-être l'emmener à l'hôpital. Et en fait, il y a une espèce de résignation de leur part qui est insupportable. Enfin, pour nous, spectateurs, spectatrices. Mais en même temps, la vie est là, l'instinct de vie est là, et l'humour, la façon dont ça finit.
Oui, c'est ça, moi je ne crois pas qu'il y ait de résignation. Il y a de toute façon... Bon, moi, les gentils policiers, j'y crois pas.
Non, mais non.
Et il y a effectivement la question de est-ce qu'on va devoir partir ou est-ce qu'on va devoir rester. On est à ce moment-là où on ne sait pas bien si on doit partir ou rester. Et c'est ça qui est au cœur de cette
D'ailleurs,
séquence-là.
Je me suis fait une remarque. À ce moment-là, Roméo, il leur parle en français.
Oui,
c'est la seule fois qu'on l'entend dire on doit partir, on va partir.
Plus haut dans le film, il parle français aussi. Mais aujourd'hui, Roméo, il parle parfaitement le français.
Voilà, c'était l'idée.
Il parle le français que moi, je parle roumain. Il a appris à parler le français. Oui. Moi, je dirais plus qu'une forme de résignation. Voilà, où on en est, comment ça va se passer, la tentative aussi d'amadouer un petit peu les flics en n'y croyant pas trop, mais surtout cette pirouette à la fin, cet humour, cette boutade lancée par Christina qui déjoue la situation et le rapport de force. Quoi.
Voilà, je crois que puisqu'on n'a pas vraiment le temps et que l'extrait, s'il faut l'écouter, ça va être en roumain ou en roumain. Elle parle.
Elle parle en roumain, là.
En roumain. Tu peux peut-être juste le dire, enfin, ou moi je l'ai noté si tu veux.
Me place comme il vinait uniforme la femeasta. Il me plaît comme il lui va à la petite, à la femme l'uniforme. Le vinait bien, il lui va bien. Et puis elle me dit Nicolas, tu trouves pas toi aussi qu'il lui va bien l'uniforme? Et voilà. Et c'est l'avant-dernière parole du Roméo ajoute ça. Christina continue en disant elle a l'air quand même gentille cette femme. Roméo ajoute elle nous a pourtant envoyé la lacrymo et Christina conclut peut-être qu'elle nous prend pour des clochards, mais on n'est pas des clochards, si, enfin non.
Et pof, voilà. Générique de fin. Ouais. Ouf, et on reste sur
Pour revenir à cette question de la violence, moi je la violence des situations, je l'ai vécu des de fois, et moi j'ai pas cherché à filmer ces situations là de toute façon. J'étais avec Roméo et Christina, je filmais les situations que eux traversaient. Il y a un moment du film, sur le début du film et en montage avec Annick, il y a eu deux films. Il y a un film avec le groupe, en fait, qui est un court-métrage avec tout le groupe. Et puis, il y a ce film plus long avec Roméo et Christina. Et voilà, j'ai sans cesse focalisé. Puis, c'est plus que je focalisais, c'est qu'on passait notre vie ensemble. Donc, la violence, c'est la violence des situations qu'ils ont traversées. J'ai jamais cherché J'ai jamais couru après la violence des situations qu'ils vivaient. De toute façon, à ces moments-là, il se passe d'autres choses encore. Mm-hmm. Et puis la caméra protège parfois. La caméra a protégé à certains moments. Pour eux,
le fait que tu sois présent, bien sûr.
Oui. Oui.
Enfin voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. On va quand même vous demander où est-ce qu'on peut voir vos films. Parce que j'imagine qu'après vous avoir entendu en parler, on a très envie de les voir. Ces deux films qui ont presque 10 ans ou qui sont déjà un petit peu anciens. Je sais que en ce moment sur Cinémathèque...
Ça fait un moment qu'il est sur Cinémathèque, il va rester, il n'y a pas de raison.
Ah oui, parce que j'ai eu l'impression qu'il mettait en avant certains films en visionnement.
Il est là depuis déjà. Enfin, s'il le met en avant, ça, je ne sais pas. Mais
les autres films ne sont pas visibles.
D'accord, je ne sais pas. Je sais que ça fait 2-3 ans qu'il est sur le site, sur donc le site Cinémathèque.
Comment alors
pas
ça
Cinémathèque, Cinémathèque.
Métèque, voilà. Donc vous tapez Cinémathèque, M-E-T-E.
Cinémathèque, souvenir d'un futur radieux, où José Vieira est
voilà.
dessus.
Mais même, on tombe sur leur site, leur plateforme, en fait, ouais. qui montre beaucoup, beaucoup de films et de réalisations de cet ordre.
Alors j'appelle C-I-N-E-M-E-T-H-E-Q-U-E, Cinémathèque.
Pourquoi tu mets H à Métèque?
Ouais, il y a un H à Métèque. Il n'y a pas de H à Métèque?
Non.
Ah bah alors,
c'est pas Cinémathèque.
Sans H. Voilà, c'est là, c'est moi qui me trompe.
C'est une grande H.
Décidément, si j'accumule. Non, bah, pas sans H, alors comme ça, ce sera plus clair. Je transmets la parole à Nicolas, même
moi,
question.
Il faut me demander que je transmette un lien, mais c'est tout à fait possible. Je ne sais pas comment ça se passe.
S'il y a des auditeurs qui nous
voilà,
contactent
qui
à Adoc,
ce oui, sera oui. avec plaisir. Mmh. Je ouais. transmettrai un
sur le site d'Adoc. Mais Mélanie va vous faire l'agenda et vous donner les moyens de contacter Adoc, d'aller sur notre site.
Bonjour, oui, dès demain, donc à 19h, lundi 4 décembre, les ateliers Varan présentent deux films d'un cinéaste crétois, Stravos Psilakis, deux portraits, celui d'un grand danseur, Jérôme Andrews, âgé de 80 ans, victime d'un grave accident sur scène et qui réussit à danser à nouveau, à force de volonté, et celui d'un combattant de la guerre civile en Crète, Yanis Lionakis, âgé de 87 ans. La projection sera suivie d'une discussion avec le réalisateur et l'entrée est libre. Adoc vous convie à la 7e édition des Pitchs d'Adoc, ça c'est jeudi 7 décembre, au centre Paris à Nîmes, 46 rue Louis Lumière dans le 20e. Le matin de 10h à 13h, c'est 6 autrices qui sont sélectionnées cette année par les Pitchs d'Adoc. Elles présenteront publiquement leur projet de film documentaire. Et l'après-midi, vous pourrez assister à deux rencontres professionnelles de 14h à 16h, atelier documentaire et expression par l'image, de l'intime au politique. De 16h30 à 18h, la précarité est-elle un choix ? Le prochain samedi d'Adoc, ce sera le samedi 16 décembre à 11h au Luminor avec le Château en Santé d'Olivier Bertrand. Dans une très belle bastide, en plein cœur d'une cité dévastée, une équipe de jeunes professionnels réinvente le soin en associant les habitants. La projection sera suivie d'un débat en présence du réalisateur et animée par Laurence Garret. La 28e édition des Rencontres du cinéma documentaire, le festival dure encore jusqu'au 5 décembre, au cinéma Le Méliès de Montreuil, et vous propose des films documentaires qui s'apparentent à des films de genre, comédie burlesque, films de procès, de gangsters, de science-fiction, tout l'éventail des émotions, du rire aux larmes. Retour à Vichgrad, de Julie Biraud et Antoine Jacoux. Ça c'est mardi 5 décembre, à 13h au cinéma L'Épée de Bois, dans le 5e arrondissement. 25 ans après la guerre de Bosnie, deux enseignants retraités prennent la route pour retrouver les élèves d'une classe de l'école de Vichgrad. Serbes ou musulmans et surtout voisins et camarades de jeu, les enfants ont été séparés au printemps 1992 et ne se sont jamais revus depuis. C'est un film formidable. Ricardo Cavallo ou Le rêve de l'épervier. Ça, c'est à voir gratuitement sur la plateforme Cube. C'est d'Isabelle Rebre. Donc la plateforme Cube, on en a déjà parlé ici, donc ça parle beaucoup de Bretagne et de films en Bretagne, c'est www.cube.web. Le 5 décembre aussi, au Forum des Images, les producteurs et productrices de la commission documentaire de l'USPA, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, lanceront la plateforme Opération Doc, une offre éditorialisée d'œuvres documentaires à découvrir en ligne et gratuitement pendant 45 jours. Adoc a lancé son nouveau dispositif Un Docu près de chez vous. Pour chaque structure, le tarif est de 50 euros. On en a parlé la dernière fois. Enfin, vous pourrez retrouver la plupart de ces informations et surtout toutes nos émissions. On a déjà traité le sujet depuis novembre 2019 sur notre SoundCloud, accessible sur notre site adoc.net, Adoc avec 2D. Merci, au revoir. On se quitte en musique avec Tsitsikia. Je sais pas moi. Bah si on n'a pas le temps. Hein?
Il est 17h sur Radio Libertaire 89.4 FM, la voix sans dionymètre de la Fédération anarchiste. Eh bien, c'est l'heure du mélange, Michel Polizier, jusqu'à 18h30. Et à 18h30, Max et Davou mettront de la fumée dans le poste. On commence avec un des anniversaires du jour.
Ah, c'est du gros qui tâche.
Ozzy Osbourne. Ici, on l'écoute en tournée dans les années 80. I don't know. I don't know, avec le guitariste Randy Rhoads. Donc, Randy Rhoads est mort en 82, donc on est avant ça.